CJSO 101.7, La Tribune. Une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour, bon mardi tout le monde. À l'émission aujourd'hui, le budget québécois, il va être déposé là, par le ministre des Finances, M. Girard, le 21 mars prochain. Alors, qu'est-ce qu'il faut en espérer? Quelles mesures? Quels investissements? Faut-tu souhaiter des baisses d'impôts ou ce serait en fait un cadeau empoisonné, ça, des baisses d'impôts? Alors, mes invités pour discuter de ça ce midi, René Lachapelle, Luc Martel, Lisette Trépanier, Claude Imbeault, Sylvain Dupuis, Dominique Gosselin, Geneviève Latour, Jérémy Letellier et Roger Lafrance. Ça va être intéressant, je pense bien, rester là à la tribune dès après la pause.
En hiver comme en été, avoir un bon système de climatisation et de chauffage, c'est la clé du confort à la maison. Climatisation Jimmy Chassé fait la vente, l'installation et la réparation de systèmes murales, de systèmes de climatisation centrale, d'air climatisé et de thermopompes. En exclusivité régionale, nous avons pour vous les produits Daikin, les meilleurs thermopompes au monde. À votre service depuis plus de 13 ans, Climatisation Jimmy Chassé, au 4210 Route-Marie-Victorin et au 450-855-1776. Psst, reste à l'affût. Ce printemps, nous saurons vous surprendre.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
La Tribune, une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Le ministre des Finances, Éric Girard, va donc déposer le 21 mars prochain son budget. Qu'en espérer de ce budget-là? Quelles mesures? Quels investissements? Je vais me tourner d'abord vers René Lachapelle, que plusieurs questions intéressent, au nombre desquelles l'environnement et la santé publique, certainement. Bonjour, René.
Bonjour, Sylvain.
Alors, on n'arrête pas de l'entendre, de le lire. L'urgence climatique s'accentue, les signaux d'alarme se multiplient. Qu'est-ce que tu aimerais voir apparaître dans ce budget qui s'adresse à ça?
Ben, d'abord, il faudrait qu'il y ait des mesures, des ressources financières qui soient allouées à la mise en œuvre de la vision stratégique que le gouvernement a publiée dans le cadre de sa politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Et je vois trois enjeux majeurs qui nécessiteraient des investissements publics importants. D'abord, au niveau des municipalités, elles devraient avoir le moyen de faire de l'aménagement du territoire pour protéger le couvert végétal, protéger les boisés, puis protéger les milieux humides. Alors, ça voudrait dire, entre autres, leur donner les moyens éventuellement de devenir propriétaires d'un certain nombre de lots sur lesquels il y a déjà des projets de déboisement ou de réaménagement de territoire. Donc, préserver la nature proche. Et ça, les villes sont les mieux placées pour le faire. Donc, il faudrait que le budget transite par les villes.
Il me semble n'avoir jamais autant vu, je ne sais pas si vous avez, vous constatez la même chose, autant vu de VUS puis de pick-up sur nos routes, des véhicules qui contribuent pas, là, en tout cas certainement pas, à la solution. QS avait proposé une taxe à l'achat de ces véhicules très énergivores. Est-ce que c'est le genre de mesure auquel vous applaudiriez ça?
Ben, éventuellement, moi je pense qu'il va falloir ça va demander du courage politique. Hein? Le premier ministre a dit qu'il voulait faire preuve de courage. Là. Il y a une très belle occasion. C'est pas une taxe qui va être populaire, mais c'est un passage obligé. On a taxé les entreprises productrices qui émettrices de gaz
à effet de serre.
Alors pourquoi ne pas le faire pour les véhicules? T'sais, on a amélioré les performances de l'utilisation des énergies fossiles, mais en même temps, on a grossi les émetteurs. Et donc, en quelque part, on se retrouve avec une augmentation et non pas une diminution des émissions. Donc là, il y a un enjeu majeur. Et ça aussi, ben, t'sais, on parle de la grosseur des véhicules, mais il y a la façon d'aménager les villes aussi. quand on est obligé de prendre son auto pour rejoindre les commerces, ben c'est sûr qu'on produit des gaz à effet de serre. Alors, si on avait des villes qui sont pensées en fonction de marché, tu sais, le Vieux Sorel, le carré du Vieux Sorel, c'est marchable, c'est un kilomètre par un kilomètre. Si les gens vivent surtout là, puis sont près des commerces, on va revitaliser le centre-ville, puis on va économiser les gaz à effet de serre. Puis je te parlais de trois enjeux au début, là. Les deux autres, il y en a un au niveau de l'économie sociale. On a ici un centre de transfert technologique en écologie industrielle qui a une action à l'échelle du Québec et qui fait du travail aussi localement, notamment avec le Recyclocentre et Botanix, là, et la SADC. Il faut que ces entreprises-là aient les moyens de permettre de développer des technologies qui vont nous éviter de faire de l'enfouissement de déchets. Alors, il y a des choses extraordinaires qui sont réalisées ici. Il y a des centaines de tonnes de matériaux qui évitent l'enfouissement parce qu'on est capable de les traiter. Il y a des matériaux pour lesquels il faut chercher des solutions. Et ça, ça prend des experts comme le CTTEI, comme le Climat 21 et comme d'autres entreprises, là. Mais ça, faut que les gens aient les moyens, hein. Ce que j'ai fait une recherche récemment, puis ce qui manque actuellement, c'est le financement des ressources en soutien au développement de nouvelles technologies pour régler ces problèmes-là. Le troisième enjeu, c'est l'habitation. Il faut que l'habitation sorte du marché spéculatif, là. C'est un problème pour les familles, ça coûte trop cher pour les familles à faible revenu. Et on a laissé se détériorer un stock de logements locatifs, sociaux et abordables. Alors que puis on construit des unifamiliales, alors qu'on aurait avantage à densifier, j'en parlais tantôt, là, densifier l'habitation et en rénovant notamment des établissements qui existent déjà, c'est moins dispendieux, ça donne plus d'effets, puis ça donne des résultats plus rapidement que si on cherche à juste bâtir du neuf.
En 30 secondes, René, dans les consultations qu'il mène chaque année avant de préparer son budget, le ministre des Finances a entendu un nombre étonnant de voix, même celle du Conseil du patronat, lui réclamer qu'il ne réduise pas les impôts des Québécois cette année.
Bien, ça m'apparaît tout à fait essentiel. Il y a un consensus unanime à l'échelle de la planète sur le fait que si on veut franchir la transition énergétique, si on veut être capable de pas se cogner le mur sur une planète inhabitable, il faut absolument que les États aient des moyens supplémentaires. Et parce que pour réussir la transition écologique, il faut qu'actuellement qu'on règle les problèmes de pauvreté. Et ça, en diminuant les impôts, on enlève des moyens à l'État alors qu'on aurait besoin d'en avoir des supplémentaires.
Très bien. Merci beaucoup, René Lachapelle.
Ça m'a fait plaisir.
Merci. Luc Martel est directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Bonjour, M. Martel.
Bonjour, M. Rochon. Comment ça va?
Ça va bien. Vous m'avez entendu pendant mon entretien avec René Lachapelle citer l'opposition du Conseil du patronat aux baisses d'impôts. Ça peut étonner. La Fédération des chambres de commerce, est-ce qu'elle s'est prononcée, elle, sur les baisses d'impôts?
Bien, tout à fait, là. Puis nous, tu sais, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on ne veut pas que les impôts augmentent pour les entreprises. Il faut qu'ils soient capables de se garder de la liquidité pour être capables de mettre en place des mesures. Nous, à la Chambre de commerce, là, il y a trois, quatre gros points là, qu'on attend au niveau du gouvernement, là, où ce qu'on veut qu'ils agissent. Puis c'est vraiment au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, au niveau de l'innovation et de la productivité, et également au niveau de l'économie verte. Et le dernier enjeu, là, selon moi, qui me touche beaucoup, c'est le développement régional.
OK. Prenons ça un par un, ou presque. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'aller jusqu'au bout, mais les PME ont des taxes sur la masse salariale 32 % plus élevées ici qu'en Ontario, si j'en crois les chiffres de votre fédération. Et 8 autres provinces ont un taux d'impôt réduit plus bas qu'ici. Pensez-vous qu'il faille, M. Martel, mener une réflexion de fond sur l'environnement fiscal dans lequel opèrent les PME québécoises?
C'est évident, M. Rochon, qu'il faut améliorer la fiscalité pour s'assurer que l'environnement d'affaires soit favorable à nos PME québécoises. Tant pour stimuler la petite entreprise à grandir en rendant accessible la déduction pour des petites entreprises à tous les secteurs d'activité que pour attirer davantage d'investissements directs étrangers.
Ouais, vous vous étiez préparé à celle-là, c'est clair. La pénurie de main-d'œuvre représente un frein à la croissance économique du Québec. Où est-ce que vous souhaitez voir M. Girard mettre du fric? Formation, immigration, prolongement de la vie active, où?
Ben, allez-y, garde, écoutez, ben là, vous me devancez, là, parce que poser la question, c'est y répondre. Dans un contexte où il y a plus de postes vacants que de chômeurs, on recommande d'agir, entre autres, pour former la relève et renforcer les formations d'appoint. On en a un parfait exemple ici, là, avec le projet, là, quand M. Jean-Bernard Raymond a annoncé en conférence de presse récemment, là, des investissements au centre de formation professionnelle, où vous pourrez avoir des partenariats avec les entreprises et les centres de formation. Faut améliorer les processus d'immigration, c'est évident. Faut encourager le prolongement de la vie active avec des incitatifs qui vont permettre aux gens, puis peut-être de dire, ben oui, si je continue de travailler dans des emplois à temps partiel, un peu moins demandant, c'est sûr que quand on a travaillé toute la vie en usine, physiquement, des fois, ça peut être plus difficile. Mais ça, on n'est plus au pic puis à appel comme dans le temps, là. Puis, faut aussi améliorer la reconnaissance des acquis et des compétences pour permettre aux gens qui ont de l'expérience dans leur carrière d'être capable de se replacer un peu plus vieux, tu sais, puis qu'on arrête de faire de l'âgisme, là, puis tout ça. Fait que ça, c'est au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, oui.
OK. La robotisation puis l'automatisation, est-ce que ce sont d'autres voies que le gouvernement doit privilégier?
Mais à 100%, M. Rochon, il faut accélérer les projets de robotisation puis d'automatisation. Plus que jamais, il faut réussir à trouver une manière d'augmenter la productivité des entreprises québécoises et leur compétitivité. Par exemple, là, je pourrais vous donner, il y aurait lieu de faire en sorte que les marchés publics intègrent davantage l'innovation et l'expertise des entreprises au Québec, tu sais.
Je parlais d'environnement puis d'économie verte avec M. Lachapelle. Est-ce qu'il faut, Luc Martel, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, mieux appuyer les entreprises dans ce contexte de transition écologique? Est-ce qu'il faut des mesures d'aide et d'accompagnement plus efficaces?
Là, je ne sais pas si on s'est préparé ensemble, M. Rochon, mais c'est encore une fois, oui, tout à fait, il faut soutenir les entreprises dans le contexte actuel de transition écologique avec des mesures d'aide et d'accompagnement qui sont efficaces. Donc, il faut vraiment continuer de soutenir les entreprises qui mettent l'épaule à la roue, qui font les efforts, puis ça, c'est tout en combinant l'innovation et la productivité, parce que l'innovation et la productivité sont axées sur les économies vertes, à 100%.
Est-ce que vous allez, Luc Martel, être rivé sur votre téléviseur le 21 mars pour le discours du budget? Est-ce que vous attendez?
Tout à fait. Je vais aller au centre-ville m'acheter une nouvelle paire de chaussures, là. Exactement, là. Puis là, on va s'acheter du pop-corn, puis on va regarder ça. Mais M. Rochon, en 30 secondes, s'il vous plaît, avant de terminer, le développement régional aussi, c'est un enjeu pour nous, surtout à Sorel. Tu sais, on est une région, on travaille fort, on est soudés, les coudes serrés. Puis il faut absolument qu'il y ait quelque chose pour le soutien aux entreprises touristiques puis événementielles. C'est important aussi qu'on s'assure qu'on ait accès à Internet partout dans les zones rurales. On a de plus en plus d'entreprises qui vont... On fait la promotion de ça, d'aller dans les milieux ruraux, de développer des petites entreprises, que les gens puissent s'établir là. Ben, tu sais, il faut qu'on pogne Internet haute vitesse dans tous les coins. Il faut trouver une solution à ça. Il faut aussi, là, au niveau du développement régional, là, de l'accès au logement locatif puis qui va être capable d'attirer puis de retenir la main-d'œuvre ici dans la région. Il faut qu'on ait des trucs pour la vitalité des centres-villes, redéfinir ça. Puis, il faut aussi, moi j'aimerais bien ça, là, la régionalisation du capital de risque. Mon collègue David Place à Développement économique fait un bon travail là-dedans. Alors, il faut continuer sur cette voie-là et il faut donner les outils aux organismes qui font du développement économique dans la région pour qu'on puisse être capable de soutenir les entreprises de manière efficace.
Et moi, il faut que je vous interrompe. Merci beaucoup, Luc Martel.
Un plaisir.
Merci. Nous joignons cette fois la présidente du syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu, Lisette Trépanier. Bonjour, Mme Trépanier.
Bonjour.
Quand on additionne le personnel enseignant, professionnel, de soutien qu'il compte, le centre de services scolaires de Sorel-Tracy, c'est certainement l'un des plus gros employeurs de la région. Hein?
En tout cas, c'est un très bon employeur pour notre région, ça c'est certain.
Un employeur dont la majeure partie des employés sont des femmes?
Oui.
Ce qui arrive souvent dans le secteur public?
Oui, assurément.
Ouais. Le gouvernement de la CAQ a fait campagne, Mme Trépanier, dans Saint-Henri-Sainte-Anne, en reprenant son engagement de baisser les impôts, pas avec le succès qu'il escomptait, certainement pas. Cet engagement là, de baisser les impôts, s'il se matérialisait le 21 mars, là, je parle de se matérialiser significativement, si le budget de M. Girard comportait de substantielles baisses d'impôts, est-ce que ça vous ferait craindre des lendemains douloureux en éducation, ça?
Oui, mais pour tout le secteur public, là, parce que c'est sûr que, à prime abord, tu dis à quelqu'un, veux-tu payer moins d'impôts? La personne va dire oui. Mais à un moment donné, il faut réfléchir, c'est quoi l'impact? Puis si l'impact veut dire moins d'argent investi pour le secteur public et les employés qui y travaillent, c'est pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Tu sais, il faut s'assurer qu'il y aura un réinvestissement dans les services publics pour les employés qui y travaillent, pour que le système de la santé fonctionne mieux, pour qu'en éducation, si on travaille à alléger la tâche enseignante, je pense qu'on travaillerait aussi à contrer la pénurie. Mais s'il n'y a pas d'argent à investir, ben malheureusement, le gouvernement ne sera pas capable de le faire. Fait que c'est pour ça que je mets un petit bémol sur la baisse d'impôts, là.
Mais vous savez que les Québécois et les Québécoises, les sondages le disent d'ailleurs, sont plutôt enthousiastes à l'égard de ces baisses d'impôts promises.
Mais je pense que ça vient de la façon dont c'est présenté aussi. C'est pas la solution. Et si je baisse vos impôts, mais que quand vous tombez malade, je vous dis d'aller au privé parce qu'il n'y a pas personne pour s'occuper de vous, je suis pas sûre que vous allez être gagnant. C'est la même chose en éducation. En éducation, on manque d'enseignants, on manque d'orthopédagogues, on manque de tous les professionnels, on manque d'employés de soutien. Bien, c'est la même chose. Je baisse vos impôts, mais vous êtes obligé d'aller au privé quand vos enfants ont des problématiques parce qu'on le système public n'arrive pas à fournir. Fait que là, c'est pas gagnant, là.
Je cite le mémoire conjoint de la CSQ, de la FTQ, de la CSD et de la CSN dans le cadre des consultations pré-budgétaires du ministre des Finances. Se priver de 2 milliards, là, c'est la citation, se priver de 2 milliards de dollars dans le contexte où les services publics craquent de partout et où ils atteignent plusieurs points de rupture, c'est incompréhensible et irresponsable. Vous croyez ça?
Absolument.
Irresponsable?
Bien, écoutez, ça craque de partout, comme vous venez de le dire. Faut arrêter de mettre des plasters en souhaitant que le plaster tienne, puis il faut trouver des vraies solutions. Il faut investir de l'argent d'une manière adéquate. Il faut écouter les gens du secteur public, je crois, pour savoir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut modifier, changer, transformer. Puis ça prend des sous pour faire ça.
Le gouvernement y justifie sa proposition de baisse d'impôts des particuliers par le fait qu'elle n'impliquerait pas de compression budgétaire puisqu'elle serait financée par une partie des revenus dédiés qui finance actuellement le Fonds des générations. Ça vous rassure pas?
Bien, ça dépend. Il faudra voir le budget qui nous sera présenté. Il faudra voir aussi quel montant va être conservé pour la négo, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que la volonté du gouvernement, c'est d'améliorer les conditions de travail. Bien, ça, on va le savoir quand on va savoir quel montant est dédié aux impôts, parce que c'est ça qui va venir nous prouver si le gouvernement veut ou non améliorer les conditions des travailleurs du secteur public.
Est-ce qu'il y a des investissements, Lisette Trépanier, ça va être ma dernière question, est-ce qu'il y a des investissements plus urgents que d'autres à consentir dans le monde de l'éducation?
Il faut améliorer la tâche enseignante. La tâche enseignante est beaucoup trop lourde. Vous savez, les conditions de travail des enseignants, c'est égal aux conditions d'apprentissage des élèves. Fait que si je travaille pour les conditions de travail des enseignants, je travaille pour les conditions d'apprentissage des élèves. Puis c'est comme ça qu'on va arriver à contrer la pénurie. C'est comme ça qu'on va arriver à garder plus longtemps nos gens qui vont plus tôt vers la retraite. C'est comme ça qu'on va réussir à remplir à nouveau les classes dans les universités, à avoir une relève solide pour les enfants de tout le monde, les enfants de notre société québécoise.
Merci beaucoup, Lisette Trépanier.
Merci, bonne journée.
On parle cette fois à Claude Imbeault, qui est, lui, président du comité des usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Bonjour, M. Imbeault.
Bonjour.
Les urgences québécoises, Claude Imbeault, continuent à faire la une à cause de leur taux d'occupation puis des temps d'attente. On n'y échappe pas à Sorel-Tracy. Est-ce que c'est en investissant plus d'argent encore en santé qu'on pourrait améliorer le portrait?
Ben, c'est sûr ça qu'il y a une question d'argent, mais il y a une question aussi d'organisation puis il y a une question de planification. Quand on regarde au niveau de la santé, moi, je pense que, d'abord, c'est sûr qu'on a un manque de personnel, si on en est très conscient. Est-ce que c'est par un manque de planification? Est-ce que c'est un manque de formation? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais quand on regarde toute notre situation au Québec par rapport à nos personnes âgées, quand on regarde qu'on va avoir de l'âge de plus en plus, moi, je pense qu'il faut avoir les ressources nécessaires pour être capable. Moi, tous les jours, on entend des nouvelles qui s'est passé telle affaire, telle affaire, telle affaire, mais il reste qu'on ne sait pas tout non plus. Mais moi, je considère que la santé doit avoir un montant d'argent additionnel. J'ai hâte de voir le plan d'action de M. Dubé. J'ai hâte de voir le budget, qu'est-ce qu'il consacre à ça. C'est sûr qu'on ne peut pas se fier uniquement sur les argents extérieurs, par exemple au niveau du fédéral, mais il reste que, moi, je pense qu'il y a une planification beaucoup plus serrée qui doit être faite dans ce domaine-là. Quand on regarde nos personnels dans les milieux hospitaliers, ils travaillent d'arrache-pied. Moi, j'ai eu l'occasion dernièrement d'aller attendre à l'urgence. J'ai vu comment ça se passait. Il y a eu énormément d'améliorations. Mais il reste que notre population est vieillissante, il faut en tenir compte.
Oui. Plusieurs maladies graves dont souffrent les Québécois, comme le cancer, les maladies du cœur ou le diabète, peuvent être évitées par la prévention. Est-ce qu'on investit suffisamment en prévention?
On investit, mais il y a de la place encore. Moi, je vous dirais, là, si on rajoutait là, un quart du montant que l'on donne déjà en l'augmentant, ça serait fort agréable parce que, ce que vous voulez, même si les nouvelles techniques, même si la technologie est supposée nous rendre un peu plus service, moi, je pense que on a bien de vivre 2 ans de pandémie, là, on a vu ce que ça a donné. Ça n'a pas été facile à traverser, il y a eu énormément de décès, il y a eu énormément d'erreurs qui se sont faites, mais des erreurs non voulues, là, c'est sûr. Moi, je pense que quand on parle d'investissement, faisons de l'investissement comme un placement. Et non pas comme un investissement de dépenses là, parce qu'on se sent obligé de le faire, mais qu'on planifie en conséquence. Moi, je crois qu'une meilleure planification, une meilleure structuration, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le gouvernement, lui, il fait des promesses. On sait, là, les impôts, ils veulent donner de l'argent au niveau des gens. Moi, personnellement, je suis en désaccord avec ça. Je me dis, c'est pas un engagement qu'ils ont pris, c'est une promesse qu'ils ont faite. Mais ils sont capables de faire un engagement pour être capable de dire ce montant d'argent-là qu'on donnerait, là, on vous le redonne, mais en service au niveau d'augmenter la qualité de nos services. C'est ça que je m'attends d'avoir.
OK. Alors, il y a trop de besoins non comblés, finalement, pour annoncer des baisses d'impôts.
Ah oui, selon moi, oui, ça, c'est juste une promesse qui a été faite. Je veux bien que le gouvernement respecte ses promesses, mais qu'il est capable de convertir en disant, OK, on vous a fait une promesse, mais voici l'engagement que nous prenons avec ce 2 milliards ou 3 milliards-là qu'on vous remettrait.
Je comprends.
L'injecter dans les services, ça, j'y croirais davantage.
Je comprends. Je vous ai entendu dire à quelques reprises là, pendant l'entretien, le Québec vieillit. C'est chez eux, dans leur maison, leur appartement, que les Québécois veulent vieillir. Tant pour des motifs humains qu'économiques, est-ce qu'il faut augmenter les budgets de maintien à domicile?
Oui, service à domicile, là, on est sérieux. Là, on a créé les maisons là, pour les aînés. Et regardez le nombre d'argent que ça coûte de créer ça. Mais cet même argent-là, si on le donnait au niveau des gens qui sont des aidants, puis qu'on amenait ces gens-là à supporter puis d'aider, moi, je crois que là, ça serait beaucoup un meilleur placement que d'investir des bâtisses puis des structures puis tout ça. Je pense que on a énormément de personnes qui sont prêtes à être aidantes. Est-ce qu'on est prêt à les aider, ces gens-là? Moi, je pense que si moi j'avais le loisir de dire là, le 2 milliards ou 3 milliards que vous voulez redonner aux gens, pensez, parce que regardez le montant que ça donne par tête de pipe, c'est pas énorme.
C'est pas gros.
Mais il reste que arrêtons de tout faire des promesses qu'on va vous remettre dans l'argent, mais qu'on la prenne cet argent-là, puis qu'on l'injecte dans des services, mais bien structurés, j'y crois davantage.
Merci beaucoup, Claude Imbeault. Merci.
Bienvenue, au revoir.
Au revoir. Après la pause, Sylvain Dupuis, Dominique Gosselin et Geneviève Latour.
Chez Meubles André-Beaulieu jusqu'au 29 mars, profitez de notre promotion des économies bien mijotées. Plus vous achetez, plus vous économisez sur les électroménagers KitchenAid. Achetez 3 électroménagers admissibles, économisez 300 $ additionnels. Achetez 4 électroménagers admissibles, économisez 400 $ additionnels. Achetez 5 électroménagers admissibles, économisez 500 $ additionnels. Venez rencontrer nos spécialistes qui sauront vous guider. Profitez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km.
Pour en savoir plus, visitez lemeublebeaulieu.ca.
Évitez les files d'attente et adoptez SaaClic, le nouveau portail de services en ligne de la Société de l'assurance automobile du Québec, en vous créant un compte au service d'authentification gouvernementale. C'est plus simple que vous ne le pensez. Pour en savoir plus, consultez québec.ca/authentification gouvernementale ou appelez au 1-877-644-4545 afin d'obtenir de l'assistance pour la création de votre compte. Un message du gouvernement du Québec.
La Tribune, une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Le ministre des Finances, Éric Girard, va dévoiler le 21 mars prochain son budget 2023-2024. Qu'en espérer? Quelles mesures, quels investissements? Faut-il souhaiter des baisses d'impôts ou pas en souhaiter? Ce sont les questions que je pose ce midi à mes invités. J'ai cette fois au bout du fil le préfet de la MRC de Pierre de Sorel, Sylvain Dupuis. Bonjour, Sylvain Dupuis.
Bonjour, Sylvain.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde veut voir le Québec se mobiliser contre les changements climatiques. On va s'attendre à beaucoup, beaucoup, beaucoup des municipalités. Est-ce qu'il ne faut pas que le, ne faudrait-il pas que le Québec finance mieux les efforts des municipalités? Puis j'ai une question plus précise que ça, Sylvain. La MRC a fait tout un effort, par exemple, en matière de transport collectif. Lire dans les deux rives du 15 février que les subventions prévues du ministère des Transports ne lui avaient toujours pas été octroyées, c'est assez... Je ne sais pas quel mot employer. C'est assez enrageant.
Le malaise est là. Écoutez, le gouvernement nous invite fortement à faire des actions claires en développement durable. Le transport collectif en fait partie. Nous, on a mis sur pied chez nous quelque chose de vraiment incroyable. On fait l'envie de toutes les autres régions au niveau du transport collectif. Les municipalités, on est prêtes à payer. On a mis notre part, notre juste part là, de toutes les municipalités de la MRC. Mais on a des garanties comme quoi qu'on va recevoir des sommes, mais le chèque est jamais, il est comme toujours dans le mal. Fait que ça fait en sorte que nous, on avance de l'argent pour le gouvernement. Puis je pense que ça, c'est ça qui a été nommé quand on a rencontré certains ministères. Écoutez, pourquoi vous ne donnez pas un montant d'argent dès le début de l'année? Puis à la fin de l'année, on fera une réduction de compte pour le 25-30% qui reste. Parce que là, les villes, la MRC, financent le gouvernement du Québec comme cela.
Restons donc sur le PICO environnement. Les programmes d'infrastructures destinés aux municipalités en matière d'eau potable et d'eau usée, est-ce qu'elles ne mériteraient pas d'être bonifiées?
Absolument. Au niveau des infrastructures municipales, oui, c'est vrai. Ils mettent beaucoup d'argent, mais quand on est 1700 villes à peu près avec les MRC et toutes les organisations à piger, entre guillemets, dans ces subventions-là, mais il n'y en a pas pour tout le monde. Ils sont capables de le faire. Je pense que c'est une question de volonté politique. L'infrastructure municipale, d'ailleurs, ça va aider aussi au niveau de l'économie pour réduire l'inflation. Ça va faire travailler notre monde. Ça va s'assurer que les contrats se fassent. Puis, il n'y a rien de pire que de ne pas être capable de faire les travaux quand tu es une municipalité. Donc, si on parle des égouts, l'aqueduc, les étangs aérés, tu sais, on est tous rendus à peu près aux 30e année, parce que ça a tout été fait dans les années 90, 92, 93. Fait que ça fait en sorte qu'on est rendu à peu près toutes les contrées, on est rendu à peu près à la 30e année. Donc là, on investit sur le dégrilleur, sur l'investissement des bassins, sur les changements des pompes. Il y a énormément d'argent qui est en cause, puis on a besoin d'aide du gouvernement à ce niveau-là.
Hey, vous avez dit le mot inflation. L'inflation, là, c'est 7 à 8 % en moyenne pour les familles. C'était ça en 2022. Mais dans les municipalités, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus haut que ça. Les volets, là, entretien et réfection du programme d'aide à la voirie locale, est-ce qu'il faut revoir leur budget pour refléter les coûts réels de réalisation des travaux pour les années à venir?
Tu as raison, ces sommes-là sont insuffisantes. Il faut savoir que dans les années 95, il avait remis, par exemple, la gestion des rangs à toutes les municipalités. Moi, j'en fais partie à Saint-Ours. Les rangs, là, c'est pas pire quand ils sont beaux, mais 25 ans après, quand il faut les refaire, là, ben, ça coûte des millions de dollars. T'sais. Puis ils méritent le même soin qu'une rue municipale, mettons, où il y a plus de maisons. Parce qu'il y a des gens qui travaillent là, il y a des gens qui restent là. Puis là, ça fait en sorte qu'on investit énormément d'argent, puis moi, j'en fais partie à Saint-Ours. Puis de l'aide, on en a besoin parce que, évidemment, les frais ont augmenté. Là. C'est plus le même prix au kilomètre. Ça a vraiment décuplé. Puis ça fait en sorte que, mais tu sais, à un moment donné, il va y avoir des villes qui n'auront pas les moyens de s'entretenir. Puis c'est ça qu'il ne faut pas se rendre là. Il faut agir avant.
Financement, Sylvain Dupallier, MRC, plusieurs ressources sont financées actuellement, à moins que je me trompe, là, sur une période allant de 2 à 5 ans dans le cadre de différents programmes. Il n'est pas impératif de consolider les responsabilités assumées par les MRC en planification, en gestion du territoire, en développement local?
Bien, souvent, ce qui arrive, là, c'est qu'ils nous donnent des responsabilités puis ils oublient de nous envoyer le transfert d'argent. Puis le FAR, c'est très technique, le Fonds des régions, a le dos large pour dire, bien, vous pouvez le prendre là-dedans pour financer ces genres d'initiatives-là. Mais ce fameux fonds-là n'augmente pas si vite que ça. Si je prends l'année 2023 versus l'année 2022, c'est le même montant. Donc, tu parlais d'inflation tantôt, de 6-7%. Bien là, on a moins d'argent que l'année passée, puis on a probablement moins d'argent que là 2 ans. Fait que c'est important, ces sommes-là doivent suivre aussi le cours de l'inflation pour faire en sorte qu'on puisse se payer aussi ce genre d'initiative-là. Parce que de plus en plus, on a dans nos responsabilités, là, on va déposer bientôt le plan d'action du PARMM, on a le développement social, la santé, t'es député à une certaine époque. C'est pas normal qu'une ville s'occupe de la santé, mais on est maintenant obligé de s'en occuper parce qu'on voit des choses qu'il faut vraiment s'assurer que ça fonctionne pour garder une région forte.
En 30 secondes, voulez-vous voir des baisses d'impôts ou vous ne voulez pas en voir?
Moi, je pense que l'effort a été fait beaucoup au niveau municipal. Les baisses d'impôts, ça rapporte rarement un avantage à ceux qui ont les moyens de les payer. Je pense qu'il y a moyen de doser ça entre ceux qui ont besoin d'aide versus ceux qui ont les moyens de payer. Les entreprises, il y a peut-être des entreprises qui sont capables de faire plus leur part. Mais l'important, surtout, là, c'est de bien cibler les dépenses pour faire en sorte que le Québec, dans les prochaines années, ben, qu'on perde pas l'avancée qu'on a pris depuis quelques années.
Merci beaucoup, Sylvain Dupuis.
Ça fait plaisir.
Merci. Hey, au sujet des baisses d'impôts, mentionnons donc en aparté que 2,4 millions de Québécois ne paient pas d'impôts. Hein? C'est 36 % des Québécois qui ne paient pas d'impôts. Alors, que représente cette perspective de baisse d'impôts pour celles et ceux qui gagnent moins de 17 183 $ par année? Rien, R-I-E-N, rien. Fin de la parenthèse, je me tourne cette fois vers Dominique Gosselin, qui est directeur général d'Action Logement Pierre de Sorel. Bonjour, Dominique.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous attendez du budget Gérard du 21 mars? Je suppose que c'est de l'aide au logement et à la construction de logements abordables. Dites-moi donc ça.
Oui, ben dans les faits, oui. C'est sûr que de notre côté, présentement, il y a la partie manque de logement. Il y a la partie... parce que, tu sais, maintenant, faut se dire, là, le mot abordable est utilisé un peu... à toutes les sauces, mais même le mot abordable est pratiquement plus abordable non plus. Fait que, tu sais, c'est devenu difficile parce que, dépendamment si on travaille avec des familles à faible revenu, que ce soit les gens à l'aide sociale ou même au salaire minimum ou à un faible taux, maintenant, les gens n'ont plus les moyens de se payer un logement décent. Là, tu sais, c'est devenu difficile. C'est pas pour rien que les montants d'itinérance ont quadruplé depuis plusieurs années parce que les gens, c'est devenu difficile. Fait que...
La crise du logement là, vécue par les locataires, mm-hmm. est-ce qu'elle s'enracine, cette crise-là, dramatiquement à Sorel? Est-ce que c'est dramatique chez nous ou c'est exagéré de dire ça?
Ah non, c'est pas exagéré. Là, c'est au quotidien que moi je les rencontre, les gens là, parce qu'il y a plusieurs problématiques reliées à la crise du logement. On parle du prix, on parle du manque de logement, on parle des augmentations abusives qui amènent les gens à prendre des décisions difficiles. Est-ce que je garde mon logement? Bon, l'augmentation est abusive, OK, mais là si je refuse l'augmentation, faut que je me mette en période de recherche de logement. Est-ce que je vais trouver un autre logement? Fait que là, c'est plus le même aspect qu'avant, là, de dire, ben, faut tout penser à tout ça avant de faire une démarche, là. C'est plus aussi simple que c'était. Parce que on risque de se retrouver à la rue ou d'empirer sa situation, là. C'est vraiment devenu difficile comme ça, là.
OK. Alors, il manque de logements abordables, oui. de logements sociaux, là, de logements qui ont ce statut-là, là.
Oui.
Et du côté de ceux qui ne l'ont pas, appelons-les les logements, je sais pas, moi, pour se comprendre, les logements privés réguliers, c'est fou les hausses de loyer, hein? 75$, 100$ par mois d'augmentation, là, c'est pas rare, là, hein?
Non, c'est ça, mais dans les faits, qui est un peu triste, c'est que la solution que les comités logements avaient proposée, puis que Québec solidaire, appuyé par le Parti québécois, avait proposé, qui a été refusée par la CAQ, c'est le contrôle des loyers. Parce qu'on se fait dire que ça coûte très trop cher mettre ça en place, puis que ça aurait dû être une des solutions les plus avantageuses pour aider. Si le contrôle des loyers s'est fait par le gouvernement, ben les augmentations abusives diminueraient. Et puis, on désengagerait le système de justice. Il y aurait moins d'abus de tous les côtés, mais la CAQ n'a pas accepté d'embarquer dans cette idée-là, qui, selon nous, était la meilleure. Fait que, tu sais, moi, dans le budget, j'aurais prévu un montant, au contraire, pour s'en aller vers cette lignée-là, mais malheureusement, ça va rester du côté utopique encore.
Les logements qui se construisent, parce qu'on dit on manque de logements, les logements qui se construisent, il y en a plein qui se construisent et qui se construiront. Mm-hmm. Ces logements-là, malheureusement, est-ce que j'ai raison de dire qu'ils contribuent à la logique inflationniste plus qu'autre chose? C'est pas donné ces places-là?
Oui, c'est ça, exact, parce que tu sais, il y a eu beaucoup d'annonces de construction de logements qui répondent pas nécessairement aux vrais besoins des gens de la région. On va desservir des gens tu sais qui sont quand même mieux nantis souvent ou qui arrivent de l'extérieur, qui vont venir habiter la région parce que ça va leur coûter un peu moins cher d'habiter ici, vu que le logement est un petit peu moins cher qu'à l'extérieur. Ça va aller chercher une couche de la société, mais là, présentement, c'est vraiment tu sais, des logements soit sociaux ou à des prix plus raisonnables qui pourraient desservir vraiment la population de Sorel, parce que là, on dirait que personne n'est vraiment dans la bonne chaise là dans le moment. Étant donné le manque de logement puis les prix, ben si tout le monde était où ce qu'ils sont supposés d'être avec un logement salubre et avec un prix adapté à leur budget, ben là on serait en voiture, mais c'est pas le cas là.
Ouais. Hey, Dominique, je veux vous entendre avant de vous quitter. Je veux vous entendre sur le projet de l'OMH à l'arrière du Canadian Tire. Il y a deux conseillers, Mme Labelle, M. Lajeunesse, qui ont levé le flag là, en disant « Hey, c'est pas génial comme site! »
Non.
Puis là, j'ai aussi lu que le directeur général de la Société d'agriculture n'est pas trop content non plus. Là, ils ont-tu raison ou ils ont tort, ce monde-là, pas content?
Bien, dans le fond, j'ai parlé avec M. Lavallée ce matin, parce que oui, je voulais avoir un peu plus de détails, parce que moi aussi, je l'ai appris là en lisant des articles... sont passés, mais le problème, si on le voit déjà sur les réseaux sociaux, c'est que l'emplacement choisi fait en sorte qu'on prive une autre partie de la population d'activité. Donc, il y a déjà une partie de jugement qui suit le fait qu'on va construire des logements pour aider les gens plus faibles revenus. Puis on entend déjà toutes sortes de choses, pas le fun là, à leur sujet. Parce qu'ils vont enlever des activités qui se passent déjà. On entend parler que l'expo agricole pourrait être menacé. Fait que là, ça va dire, ben, ça va leur tomber sur le dos. Fait que moi, j'étais un peu réticent à dire que c'est une bonne idée, moi, avec, là, de. Parce qu'il y a eu beaucoup de terrains disponibles, puis il y en a probablement d'autres, là, tu sais.
Ouais. OK. Dominique, faut que je vous laisse, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Dominique Gosselin.
Parfait.
Merci. Geneviève Latour dirige l'organisme de défense des droits sociaux du Richelieu. Bonjour, Geneviève.
Bonjour.
L'ODDS, ça, c'était autrefois le regroupement des assistés sociaux. Est-ce qu'on parle du même organisme?
Oui, on parle du même organisme.
Bon, ben une personne seule sur l'aide sociale, elle a combien par mois pour vivre?
770 $ par mois.
Excusez-moi, est-ce que j'ai bien compris? 770?
Oui. Pour une personne seule, oui.
Ouais, mais là, on arrive comment avec 770 $ par mois?
Ben, c'est impossible, ben impossible. Faut que les personnes passent à porte passant, au geste. Leur montant de chèque passe pratiquement dans le loyer. Puis il faut qu'il y ait un coût de loyer pas à 800, 900, 700... 1 000 $, on ne peut pas là, arriver avec ces montants-là.
Mais taisant qu'on ne peut pas. Mais vous, là, quand, avec ce que vous venez de me dire là, quand vous entendez les promesses de réduction d'impôts, y a-t-il un frisson qui vous traverse le dos pour ce monde-là qui en arrache?
Oui, c'est sûr. Nous, de notre côté, on ne veut pas de baisse d'impôts pour être capable de réinvestir dans les programmes sociaux, tu sais. Pour aider les gens, la mesure de panier de consolation, là, aujourd'hui, est à 23 025 $ par année. une personne à cité sociale ne fait même pas 10 000 $ par année.
19 000 par année.
10 000 par année, non, ils ne font pas ça. Mais le panier de consommation, c'est 23 000 par année.
OK.
C'est ce qu'on aurait besoin pour vivre tout le monde convenablement.
Qu'est-ce que vous espérez du budget qui sera dévoilé mardi prochain? Quelles mesures? On fait quoi pour consolider le filet social au Québec? Où est-ce qu'on investit, là?
Bien, moi, ça serait de rehausser les prestations des personnes à cité sociale, qu'on bannisse les catégories, qu'il y en ait seulement une. Le revenu de base, maintenant, il y a le revenu de base depuis janvier, qui est aux alentours de 1 400-1 500 par mois. Ce serait déjà mieux pour tout le monde. Parce qu'il y a comme quatre catégories. Il y a l'aide sociale, puis contrainte sévère à l'emploi, contrainte temporaire et le revenu de base. C'est tous des montants différents.
Mais est-ce qu'il y en a encore beaucoup des prestataires d'aide sociale qui sont aptes à travailler dans le contexte de la pénurie de la main-d'œuvre? Là, il ne doit pas y en avoir des milliers dans la région?
Ben, il y en a. Souvent, ils ne sont pas reconnus contraintes sévères à l'emploi parce que c'est difficile à les chercher. Mais les gens qui fréquentent nos groupes, clairement, il y en a qui ne peuvent pas travailler, même s'ils voudraient. Ça va être au niveau de. Il y en a peut-être une petite histoire vite comme ça. J'ai un de mes membres, il va au McDo de nuit. Il a de la difficulté à lire puis écrire. Il est engagé tout, mais devant la friteuse, il a été incapable de comprendre. Donc, ça n'a pas fait. T'sais, ça dépend. On pense qu'aller travailler au McDo, c'est facile, mais c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Il a finalement trouvé un travail, cette personne-là, éventuellement plus tard, mais ça n'a pas fait. J'en ai d'autres, des membres qui ont eu le virage dans des grandes surfaces, qui ont passé avec... tout était informatisé, ils n'ont pas été capables de s'adapter, ils ont perdu leur travail. C'est ça qu'on va voir aussi. Là.
Bon, alors, quand on entend là, les gérants d'estrade dire « qu'aillent donc travailler, cette gang-là », c'est pas mal plus compliqué que ça. Hein? C'est pas mal plus compliqué que ça. Hein?
Compliqué, puis aussi, il faut pas... Souvent, moi, je dis « on tombe à l'aide sociale ». Quand que les personnes qui arrivent à l'aide sociale m'appellent, me disent « ben c'est quoi, j'ai juste ça pour vivre ?» Oui. Donc, ça amène d'autres problématiques. Souvent, la dépression va embarquer. Plus que le temps que tu passes à l'aide sociale, plus c'est long, plus c'est difficile de retourner sur le marché du travail. Donc, tu sais, si psychologiquement, tu n'es pas là, tu es tout le temps en état de survie, à savoir si tu vas être capable de payer ton loyer, manger convenablement, puis t'habiller, c'est pratiquement impossible. T'sais. Puis le retour au travail aussi très difficile. Là, c'est tout le temps comme un mois en arrière. Fait que si tu fais plus que ton chèque et le montant permis d'aide sociale, de travail, bien, le mois d'après, t'es coupé. Fait que souvent, ça l'insécurise les gens de retourner sur le marché du travail en sachant pas si tu vas garder ton travail et que le mois d'après, t'auras peut-être même pas ton chèque complet.
Je comprends. Merci beaucoup, Geneviève Latour. Merci.
Merci.
Après la pause, Jérémy Letellier, il est président de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, et Roger Lafrance, qui lui est de l'Association coopérative d'économie familiale de la Montérégie-Est.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.
Chez Meubles André Beaulieu, jusqu'au 29 mars, profitez de la promotion des électroménagers fiables. Économisez jusqu'à 300 $ additionnels sur les électroménagers Maytag admissibles. Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez aussi une vaste sélection de mobilier de salon, de chambres à coucher et de matelas pour répondre à chacun de vos besoins. Nos conseillers sont là pour vous guider. Profitez de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Pour en savoir plus, visitez lemeublebeaulieu.ca. Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
La Tribune, une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Le ministre des Finances dévoilera le 21 mars prochain son budget 2023-2024. Qu'en espérer? Quelles mesures, quels investissements autour du président de l'UPA Montérégie de nous partager ses attentes? Bonjour, M. Letellier.
Bonjour.
On a commencé cette émission en parlant d'environnement. J'aimerais ça qu'on commence par là, tous les deux. Les attentes des Québécois en matière d'agro-environnement et de bien-être animal sont élevées. Est-ce que les aides et les mesures gouvernementales sont appropriées ou elles doivent aller beaucoup plus loin?
Ben, je pense qu'il y a une belle amorce, là, notamment en agro-environnement, avec l'élaboration du plan d'agriculture durable. Il y a quand même 26 millions qui avaient été dévolus initialement, puis ce montant-là a été majoré, fait que c'était pas rien. Mais je pense que tout le monde a été surpris par la demande des producteurs. Donc, on n'a pas pu répondre aux aspirations de tout le monde. Fait que oui, ça prend un réinvestissement supplémentaire. Les intentions étaient excellentes, il manquait juste de l'argent à dernier.
L'accès aux terres, Jérémy Letellier, dont le prix a presque quadruplé là, depuis 2010, le prix des terres, j'imagine que c'est un élément auquel vous voudriez aussi voir le ministre des Finances s'arrêter pour une entreprise en démarrage, là, comme pour l'établissement d'une relève, le prix exorbitant des terres, ça complique drôlement le portrait.
Oui, il n'y a pas de solution facile, c'est certain, parce qu'on joue quand même dans les actifs des producteurs aussi, quand on parle du prix des terres. Il y a des producteurs qui s'en servent comme effet de levier pour financer des activités. Donc, oui, on a un problème, par exemple, pour installer les relèves non apparentées. On cherche à mettre en place des solutions qui sont peut-être pas parfaites à première vue, mais je pense qu'il peut faire un bout de travail, là, notamment avec les fiducies du réseau électrique métropolitain, des choses comme ça. Donc, des fiducies qui ont été mises en place pour acquérir des terres, pour les remettre à la relève. Mais pour que ces fiducies-là prennent de l'ampleur puis qu'ils puissent répondre aux aspirations du plus de producteurs possible, ça va prendre un soutien gouvernemental.
J'ai lu qu'en janvier 2020 et septembre 2022, la croissance des prix des intrants agricoles avait été deux fois supérieure à celle du panier de consommation, puis que malgré ce contexte-là, il n'y a aucun réinvestissement du gouvernement du Québec. Vous voulez voir au budget des mesures pour faire face à des situations comme celle-là?
Absolument. Je pense que c'est la demande numéro un dans le cadre du prochain budget. La situation n'ira pas à s'améliorer. Avec la hausse des taux d'intérêt, conjuguée à l'inflation qui diminue pas tant que ça, l'effet est double sur les liquidités des producteurs. Puis, historiquement, quand les taux d'intérêt augmentent, particulièrement quand ils augmentent de façon dramatique comme au cours de la dernière année, ça prend un an avant que les effets se fassent ressentir sur les fermes, avant que les termes arrivent à échéance puis que les renouvellements arrivent. Donc, on sent que ça a déjà été un problème l'an dernier. C'est un problème qui va s'accentuer au cours de la prochaine année. Ici, en Montérégie, on a été, je dirais généralement, sauf exception, moins frappé que dans les autres régions parce qu'on a des secteurs de production où les revenus ont suivi, notamment dans le grain, dans le lait, dans le maraîcher. C'est des secteurs de production où ça a quand même bien été au cours de la dernière année. Mais là, le ressac, je pense qu'il s'en vient avec la hausse des taux d'intérêt puis une certaine stabilisation des prix. Donc, ça va être un enjeu qui est déjà très, très présent dans les autres régions puis qui va suivre en Montérégie au cours des prochains mois.
Vous demandez que le budget du MAPAC, ça c'est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, soit haussé de 500 millions annuellement.
Oui, bien dans le fond, c'est pour illustrer qu'il n'y a pas eu d'investissement supplémentaire en agriculture depuis plus de, je pense, ça fait maintenant 11 ans. Le budget est à 1 milliard en 2011-2012. Il est encore là actuellement. Des fois, il a baissé un petit peu, après ça, il a remonté. Mais les besoins sont plus grands, l'économie a évolué. Les budgets du gouvernement dans son semblent évoluer aussi. Donc, quand on se compare à ce qui se passe ailleurs dans l'OCDE, dans le monde occidental, le support gouvernemental aux producteurs agricoles, il n'est pas là. On a un gouvernement actuellement qui mise beaucoup sur les aides à l'investissement, mais dans un contexte, pour tout de suite, c'est une aide à l'endettement, puis c'est pas de ça qu'on a besoin. C'est vraiment une aide directe pour supporter la période particulière qu'on vit actuellement. Je pense qu'en termes de perspectives à long terme, les perspectives sont très bonnes pour le monde agricole. Les gens ne vont pas arrêter de manger. La population, non seulement elle s'agrandit au niveau mondial, mais en plus, dans plusieurs pays, on a accès à la classe moyenne, donc on change d'habitude alimentaire. Donc les perspectives sont là, mais il faut garder nos fermes compétitives dans le moment présent, puis c'est là qu'il y a un petit manque actuellement.
Merci beaucoup, Jérémy Letellier, président de l'UPA Montérégie. Merci, Jérémy.
Ben, merci beaucoup.
On rejoint pour conclure cette émission Roger Lafrance. Monsieur Lafrance est de l'Association coopérative d'économie familiale de la Montérégie-Est, mieux connue sous l'acronyme ACEF. Bonjour, Monsieur Lafrance.
Oui, bonjour.
Parlez-moi de l'ACEF d'abord, de votre mission. Moi, je comprends que vous pouvez nous aider à établir un budget, à trouver une solution à l'endettement, à défendre nos droits en tant que consommateurs ou locataires.
Oui, exactement. Puis c'est sûr, notre principal service, nous, c'est la consultation budgétaire. Ça s'adresse à des gens qui vivent des problématiques de budget, donc manque d'argent, manque de revenus, ou encore on a des dettes qui sont trop élevées. Donc, on essaie de trouver des solutions là pour les gens qui sont prises avec un budget qui ne va pas bien.
Si vous deviez aider le ministre des Finances, M. Girard, à faire son budget, le budget de l'État québécois, qu'est-ce que vous lui conseilleriez?
Pas nécessairement faire des baisses d'impôts, je vous dirais, parce que c'est sûr que une baisse d'impôts, c'est apprécié par tout le monde. Mais en fait, on veut en payer le moins possible. Il faut par contre se rappeler à quoi servent les impôts. Hein. Ça sert à se donner des services. Donc oui, le Québec, on est une des juridictions qui paye où on paie le plus d'impôts au Canada. Mais en même temps, on a des services en conséquence. Donc, je suis sûr que les parents là, dont les enfants vont à la garderie, ne seraient pas heureux de retourner à un service de garde à 40-50 $ par jour hein, pour leur enfant. Donc, nous, on est un peu contre ça. On pense que c'est pas le moment de baisser les impôts. Il y a beaucoup de besoin dans le réseau de la santé, entre autres. Il y a beaucoup de besoin dans le réseau de l'éducation, sur nos routes. On pense que c'est encore le temps de... Donc, c'est important de préserver ces services-là pour la population.
L'Union des consommateurs, dont je sais qu'elle regroupe plusieurs ASEF, soumet qu'il ne faut pas moins d'impôts, mais mieux d'impôts. Est-ce que c'est une formule qui vous plaît, ça?
Oui, puis il faut que ce soit mieux dirigé. C'est sûr qu'on voudrait, on voudrait que les plus riches paient davantage d'impôts. Comme vous l'avez dit dans votre émission, les gens, je pense qu'il y a 36 % des gens qui ne paient pas d'impôts. Donc, ça en fait beaucoup pour les gens qui en paient. Fait qu'on voudrait que ce soit un peu plus équitable en tant que tel. C'est sûr que l'inflation a touché beaucoup de monde, hein, depuis un an à peu près. Faut pas oublier non plus que le gouvernement a posé des gestes importants là, par rapport à l'inflation. On se souvient tous de notre 100 $ qu'on a reçu en décembre, du crédit d'impôt pour les personnes âgées de 70 ans et plus, qui est de 2000. C'est un crédit d'impôt qui est remboursable. Donc, on va le voir dans nos prochains rapports d'impôt pour les gens de 70 ans et plus. Donc, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais on pense que ça doit être mieux géré, puis que ça doit servir aussi à des problématiques qui sont vraiment importantes là, actuellement.
Je feuillette le mémoire déposé par justement l'Union des consommateurs à laquelle je référais, son mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires du ministre Girard. Elle voudrait voir abolie la TVQ sur les factures d'électricité. Est-ce que vous partagez cet espoir?
Oui, parce que c'est un service essentiel, l'électricité. On sait que là aussi, ça augmente. C'est sûr ça serait intéressant que ce soit plus qu'on ait des factures qui soient moins impactantes. On sait que ça avec on a quand même nos factures d'électricité ne cessent de monter. Donc c'est sûr que d'aider les plus démunis par rapport à la taxe de vente, ça aiderait à ce niveau-là.
Le temps nous manque pour aller beaucoup plus loin, M. La France. Vous allez avoir l'œil sur votre téléviseur le 21 mars?
Oui. C'est sûr. Puis c'est sûr, une des demandes nous qu'on fait, c'est le logement abordable et social. Il manque de logement social actuellement à cause de pénurie de logements. Il faut que le gouvernement investisse beaucoup plus là-dedans. Et non pas qu'il investisse autant, mais qu'aussi quand on met en place des programmes, que ces programmes-là aboutissent. Actuellement, il y a des sommes qui ont été annoncées, mais ça prend des années avant que les groupes puissent faire des projets là pour loger les gens qui en arrachent actuellement avec la hausse des prix du logement.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Roger Lafrance.
Merci beaucoup.
Merci. Merci à l'ensemble de mes invités, René Lachapelle, Luc Martel, Lisette Trépanier, Claude Imbeau, Sylvain Dupuis, Dominique Gosselin, Geneviève Latour, Jérémy Letellier et Roger Lafrance. Merci à Laurent Cournoyer, au standard téléphonique. À la semaine prochaine pour une autre édition de La Tribune.